Et voilà, mes frères bien-aimés, nous sommes déjà le dernier jour du temps de Noël. Je vous rassure, vous pouvez encore garder chez vous la crèche et le sapin jusqu'au 2 février, comme on le faisait avant, pour profiter encore des grâces de la naissance du Sauveur. Mais pour la liturgie, on quitte aujourd'hui l'enfance du Christ et on passe directement à ce que l'on appelle sa vie publique, les 3 dernières années de son passage sur terre, au cours desquelles il a tenu les discours et opéré les miracles qui se trouve renseigné dans les 4 évangiles. Aussi, tout logiquement, la liturgie place aujourd'hui devant nos yeux le baptême de Jésus, qui est le tout premier acte de sa vie publique, le premier acte où il a commencé à être reconnu en tant que Messie. Jésus s'approche donc de Jean pour se faire baptiser par lui, comme des milliers d'autres juifs, mais voilà que Jean le lui refuse. Ah, c'est qu'il a une sacrée personnalité, le cousin du Christ, et il n'hésite pas à faire front à ce dernier. Mais attention, ce n'est pas là de l'insolence, bien sûr, mais de l'incompréhension. Jean-Baptiste sait très bien que son baptême est un baptême de pénitence et de conversion. Autrement dit, un baptême où on demande pardon à Dieu pour ses fautes. Or, Jésus, qui est Dieu et qui est donc sans péché, n'a pas besoin de demander pardon. Aussi, son cousin s'offusque qu'il veuille faire ce geste. Mais le Christ va tout de même réussir à le convaincre en lui disant « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors que cette simple phrase ait convaincu le précurseur peut nous paraître étonnant. Mais revoyons simplement notre compréhension de ce qu'est la justice et alors nous ne serons plus étonnés. Nous, dès que nous entendons parler de justice, nous pensons aux juges et aux tribunaux. Nous pensons à des situations où il faut sanctionner et rétribuer chacun selon ce qu'il mérite. L'agresseur est condamné, la victime est dédommagée. Mais tout cela, c'est rendre la justice. Le Christ parle ici d'accomplir la justice. Et c'est là tout autre chose. Cela consiste à rendre juste quelqu'un qui ne l'est pas. À rendre pur quelqu'un qui ne l'est pas. Voyez, il ne s'agit plus de condamner l'agresseur, mais de réparer son cœur. Cela n'a rien à voir. Or, quand Dieu veut rendre un homme juste, un homme pur, il y a 2 conditions. Tout d'abord, c'est que la personne le veuille. Autrement dit, qu'elle demande pardon pour ce qui est injuste, pour ce qui est impur dans sa vie. Et ensuite, c'est que la personne demande parfaitement pardon à Dieu, en quantité et en qualité, c'est-à-dire pour toutes ses fautes et avec un regret désintéressé. Malheureusement, depuis le péché des origines, aucun être humain ne s'est parfaitement excusé auprès de Dieu pour ses exactions. Cela est vrai pour Adam et Ève. D'ailleurs, dans le récit de la Genèse, rien n'indique qu'ils soient même désolés d'avoir désobéi à la divinité. Cela est aussi vrai pour tous les hommes de l'Ancien Testament, et cela est encore vrai pour nous. Car lorsque nous allons nous confesser, certes, nous le faisons en pensant à Dieu notre Père, mais il y a souvent beaucoup d'orgueil qui y est également mêlé. On le fait pour soulager sa conscience ou pour bien se faire voir. On cherche un vieux prêtre ou un prêtre qui ne nous connaît pas. On noie les péchés dans des formules alambiquées ou on parle de ceux des autres. Et j'en passe et des meilleurs. Voyez, on y va certes pour Dieu, mais en cherchant aussi, et parfois surtout, à ce que ça nous coûte le moins possible. Quoi qu'il en soit, aucun être humain ne s'est donc parfaitement excusé auprès de Dieu pour ses exactions. Et par conséquent, Dieu n'a jamais pu absoudre entièrement l'humanité de ses inconduites. Et voilà pourquoi le Christ a voulu se faire baptiser par Jean. Car alors, pour la première et pour la seule fois de toute l'histoire, un homme a parfaitement demandé pardon à Dieu. Que ce soit en qualité, Jésus n'a commis aucune offense, donc il n'attend rien en retour de son repentir, et donc celui-ci est complètement pur, mais aussi en quantité. Jésus n'a commis aucune offense, donc son repentir ne porte pas sur ses propres offenses, mais sur celles de tous les temps. Et ainsi, enfin, la Sainte Trinité a pu déverser sa justice en torrent sur la terre. Elle a pu commencer à assainir entièrement les âmes. Elle a pu commencer à diviniser ces mêmes âmes. Avant, elle ne le pouvait pas, car elle ne divinise que ce qui est absolument saint. Et elle a pu commencer à peupler son paradis. Voyez, mes frères, comme le baptême du Christ comme le pardon du Christ est capital pour nous tous. Aussi, il serait bon qu'avant chaque confession, nous nous inscrivions dans cet acte du Christ en lui disant intérieurement « Seigneur, vous savez que même mes aveux en confession sont imparfaits et constituent des péchés, car ils sont teintés de lâcheté, d'erreur, d'hypocrisie. Aussi, je vous en supplie, venez en moi et prononcez en moi le pardon que vous avez exprimé sur le lac de Tibériade en vous faisant baptiser par Jean. Ce pardon qui résonne éternellement sur terre, ce pardon qui, venant de vous, le Fils unique, touche de manière unique le cœur du Père. Et par la même occasion, aidez-moi, Seigneur, à percevoir tous mes péchés, à les regretter vraiment et à prendre la ferme résolution de ne plus les commettre. Vous allez voir, mes frères, si nous allons dans cet état d'esprit à la confession, elle ne sera pas sans effet sur nous. Et une autre manière de bien préparer nos confessions et de leur permettre d'être fructueuses, c'est de faire tous les soirs un examen de conscience. Attention, il ne s'agit pas de passer une heure à regarder à la loupe chaque seconde de notre journée. Mais voyez, avant de nous endormir, alors que nous nous sommes étalés de tout notre long sur notre lit, prenons un crucifix, ou une image du Christ, ou une statue de lui, bref, ce que l'on veut, mais un objet pieux que nous aimons et qui nous fait penser à Jésus. Et alors, regardons-le bien dans les yeux et revoyons avec lui les grandes lignes des dernières 24 heures. Il y aura alors des actes qui vont tout de suite apparaître comme pécamineux. On s'est mis en colère injustement, on n'a pas répondu à son enfant qui nous posait une question, on a dit du mal de la voisine. Et pour chacune de ces situations, il convient alors que nous fassions une rapide demande de pardon. Un simple « pardon mon Dieu » étant largement suffisant. Mais il y aura aussi tous les autres actes de notre journée que nous penserons comme bons ou comme neutres. Et bien même là, il convient que nous nous demandions s'ils sont vraiment si bons ou si neutres que ça aux yeux de Dieu, en lui disant « Seigneur, si vous aviez été à ma place, auriez-vous fait exactement comme moi ? N'y aurait-il pas tout de même un manque d'ardeur dans la réalisation de mon acte ? Suis-je allé au bout de l'amour ?» Mes frères, ne voyez pas là une méthode pour développer les scrupules ou la peur de Dieu en nos consciences, mais voyez-y simplement la crainte de l'amour. Car quand on aime vraiment, on a peur de faire le moindre mal à l'autre, de faire quelque chose qui lui déplairait même qu'un peu. Et alors, on se remet toujours en question. C'est ce qu'affirme le philosophe danois Kierkegaard dans une comparaison sublime entre la jeune fille et la femme mariée. La jeune fille, commence-t-il, est rougissante à la seule ouïe du nom du bien-aimé, ou quand elle le prononce à haute voix dans la solitude. La jeune fille a le cœur qui bat violemment chaque fois que la pendule sonne l'heure où son amant doit venir. La jeune fille frissonne à la pensée de lui déplaire par un rien et perd le sommeil d'avoir commis la moindre vétille. La femme mariée, par contre, poursuit Kierkegaard, elle est sûre. À présent, après quelques années de mariage, elle est bien certaine d'être digne de son homme. Elle ne ressent plus aucune de ses virginales impressions. Elle est, en ce qui la concerne, parfaitement sûre. Elle se plaît à elle-même, alors comment ne plairait-elle pas ? J'allais dire au bien-aimé, mais il ne s'agit pas de cela, elle n'en a point, bien qu'elle ait cet homme pour époux. Elle n'est pas comme ce vieillard courbé, dont la barbe atteint les genoux, et qui, comme on lui demandait pourquoi il était si triste, a répondu en levant les bras « J'ai perdu ma jeunesse sur la terre, et je la cherche maintenant partout !» Elle, elle ne cherche rien. Elle qui cherchait jadis à plaire avec toute la profondeur de l'amour, elle se plaît à elle-même, elle a pleine assurance. Cette assurance, conclut le philosophe danois, est-elle un changement en mieux ? Mes frères bien-aimés, qu'il soit bien clair que ce qu'on peut dire de la jeune fille, on peut le dire du jeune homme également. D'ailleurs, la question n'est pas là, ce n'est pas le lien conjugal entre l'homme et la femme que je veux aborder aujourd'hui, mais celui entre la créature et son créateur. Eh bien, puissions, mes frères, dans notre relation à Dieu, garder toujours les tremblements de la jeune fille et ne jamais tomber dans la certitude de la femme mariée. Et pour cela, remettons-nous toujours en cause. Demandons-nous toujours même dans ce que l'on fait depuis des années et qui nous semble bon ou acceptable, demandons-nous si la manière avec laquelle nous le faisons n'horrifie pas Dieu. Car malheureusement, c'est plus souvent le cas qu'on ne le pense. Et pour nous aider dans cette tâche, Kierkegaard a composé cette magnifique prière que nous pouvons faire nôtre maintenant. Ô Dieu, préservez-moi de devenir jamais parfaitement sûr de la bonté de ma vie. Gardez-moi jusqu'au bout dans l'incertitude, afin que si je perçois la béatitude du ciel, je sois absolument sûr de l'obtenir par grâce. Car c'est jouer la comédie que de croire l'obtenir par grâce et de se montrer pourtant si certain ici-bas. Amen.